Bonsoir à tous et merci d'être venu pour la troisième conférence du cycle écriture et photographie. Nous accueillons ce soir avec un petit peu de retard parce que nous étions à la lecture de l'Oulipo en face avec les étudiants. Toutes nos excuses à ceux qui sont arrivés à 18h30. On avait essayé de faire passer le message autant que possible. Nous accueillons ce soir donc, et c'est un vrai plaisir, Magali Nachtergaele, qui est spécialiste de Roland Barthes, de Sophie Cal, bref, d'auteurs qu'on aime beaucoup quand on s'intéresse à la littérature et à la photographie. Elle a publié, je vais faire court, mais quand même dire qu'elle a publié Les mythologies individuelles, récits de soi et photographie au XXe siècle, aux éditions Rodopi en 2010. Donc c'est un ouvrage que, évidemment, je vous conseille. Et donc Magali Nachtergaele est maître de conférence en littérature et art contemporain à l'Université Paris 13. Elle co-dirige une revue de littérature générale qui s'appelle Itinéraire littérature texte culture, qui passe prochainement en ligne sur revue.org. Ça aussi, c'est bon à savoir. Et puis donc elle travaille aussi bien, je le disais, sur Barthes que Sophie Cal, l'art contemporain, la représentation de soi, bref, des sujets qui nous passionnent. Merci beaucoup.
Oui, je voudrais évidemment, avant toute chose, remercier nos hôtes ce soir, enfin mes hôtes, Anne Bonnefoy et Anne-Cécile Guilbard de l'Université de Poitiers, pour leur invitation dans ce cycle autour de l'écriture et la photographie. Et j'en profite aussi pour remercier également l'Espace Mendès France pour son accueil chaleureux et puis le public, bien sûr, pour sa présence ce soir. Alors, je voudrais d'abord expliquer en deux mots ce que recouvre le titre de cette conférence, « Images de Roland Barthes et mythologie individuelle », et tout particulièrement par ce que j'entends par l'expression « mythologie individuelle ». Alors, sans refaire l'histoire d'un phénomène que j'ai décrit dans mon ouvrage qui est paru l'an dernier, en fait, j'aimerais simplement insister sur le fait que cette notion de mythologie individuelle procède directement de l'essor de l'individu, de la figure de l'individu à l'ère capitalistique bourgeoise. Donc au moment où l'individu peut se constituer un capital personnel, historique, au même titre que une entreprise en tout cas. Cela procède aussi évidemment surtout de la modernité technique et surtout de l'essor de la photographie de masse à partir de la fin du XIXe siècle. En effet, en 1888, l'invention du Kodak portatif, donc le premier appareil à pellicule souple, a permis, selon les termes de Gisèle Freund, dans son ouvrage de référence Photographie et Société, de se photographier soi-même et donc ne plus être dépendant d'un studio ou d'un photographe professionnel. Donc la mythologie individuelle apparaît et se développe donc essentiellement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un XXe siècle moderne, au moment de la massification des médias, des moyens de reproductibilité technique des images. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la généralisation du réseau Internet, des interfaces de présentation de soi, a entraîné la représentation individuelle de cette capitalisation d'archives historiques vers une performance plus visuel, qui n'est pas sans accompagner aussi l'évolution économique de la société et du sujet social dans un ordre compétitif mondial. Donc en tant que telle, la mythologie individuelle est aujourd'hui, selon mon point de vue, un élément de compréhension de la constitution de la représentation de l'individu au XXe siècle. Mais, évidemment, en remontant le temps, l'expression mythologie individuelle a été utilisée au XXe siècle dans d'autres circonstances par les surréalistes, les premiers dans un sens psychanalytique, j'y reviendrai, mais surtout, elle est apparue dans le monde de l'art sous le sens que je reprends un petit peu, même si je le déplace un petit peu dans le champ de la compréhension culturelle du sujet et de la représentation de soi. Elle apparaît sous l'égide d'un commissaire d'exposition majeur du XXe siècle qui s'appelle Harald Zeman. Et elle n'a pas exactement le sens que je lui donne aujourd'hui. Alors, ça c'est juste la couverture de mon livre. Il y a un autre livre aussi qui traite des mythologies personnelles dans l'art contemporain d'Isabelle de Maisonrouge et cette expression de « individuelle mythologien » d'Harald Zeman, qui en fait est utilisé la première fois dans une acception strictement, enfin plus strictement psychanalytique, au sujet des demeures mythiques d'un sculpteur français dans les années 1960, Étienne Martin. Donc vous avez ici une sculpture. Étienne Martin qui obtient en 1966 le Grand Prix de la Biennale de Venise. Alors si ce sculpteur n'est pas aujourd'hui aussi connu que Jeff Koons qui expose au Château de Versailles, en fait il était une célébrité des années 50-60 et vous avez ici sa demeure numéro 1 qui est dans l'espace public sur les quais de Seine à Paris. Alors Harald Zeman va utiliser pour la première fois le terme de mythologie individuelle à l'égard de ces demeures. Et il a ensuite réutilisé le terme c'est son utilisation la plus fameuse, et c'est celle que j'emprunte en fait, pour une section de la Documenta 5 de Cassel. Alors la Documenta, c'est une grande exposition qui a lieu tous les 5 ans près de Francfort, et qui a pour mission de faire un état des lieux mondiaux de l'art contemporain. Donc on a une espèce de panorama mondial. Et en 1972, Harald Zeman décide que quasiment les trois quarts de ce lieu qui fait plusieurs milliers de mètres carrés va être consacré aux mythologies individuelles. Alors qui sont les artistes que l'on va trouver dans ces mythologies individuelles, évidemment qui sont toujours liés à Étienne Martin? Eh bien, on va trouver Christian Boltanski, c'est-à-dire des artistes qui vont relever de l'art conceptuel ou post-conceptuel. Alors ici, avec recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance qu'il avait composé à la Galerie Givaudan, vous avez le lit de Christian Boltanski, morceau d'un pull au vert porté par Christian Boltanski, des cheveux de Christian Boltanski. Je tiens à préciser, merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser qu'il a fait un dépôt à la Bibliothèque nationale de France de ces boîtes comportant ces éléments. Alors, en 1972, l'état des lieux, selon Harald Zeman, portait sur cette notion de mythologie individuelle, une notion utilisé de façon, il faut le dire, très libre par le commissaire d'exposition. Alors, en englobant à la fois sa définition psychanalytique, le mythe individuel comme facteur de névrose, alors il y a un texte célèbre de 1953 de Jacques Lacan qui s'appelle « Mythe individuel du névrosé ». Il y a aussi évidemment une définition anthropologique. Le mythe chez Lévi-Strauss est un ferment structure sociale. Là, je vous renvoie à sa série mythologique qui commence avec Le cru et le cuit en 1964 et encore avant avec ses études sur les structures de la parenté. Il y a évidemment la définition moderne fixée par Roland Barthes en 1957 dans le chapitre Le mythe aujourd'hui en postface de mythologie, donc mythologie sur laquelle je reviendrai. Par ailleurs, je signale aussi qu'en 1964, a eu lieu au Musée moderne de la ville d'art moderne de la ville de Paris une grande exposition de la figuration narrative qui s'appelait Mythologie quotidienne. Donc la notion de mythologie est extrêmement présente. Mythologie moderne est un terme qui déjà dans les années 50 est connu. Les surréalistes et Aragon dans Le paysan de Paris le mentionnent, Breton aussi. Donc c'est un terme qui a déjà une certaine actualité, enfin qui est déjà travaillé depuis plusieurs années. Mais en s'individualisant, la mythologie prend un autre tour qui va concerner plus directement la construction de l'identité et évidemment de l'histoire individuelle. La photographie va faire partie, au premier chef, de cette construction mythologique et je vais en parler évidemment plus précisément avec Roland Barthes. Donc le mythe est aussi à considérer le mythe comme objet, hein, à prendre vraiment comme une idée que l'on regarderait d'un point de vue distancié, a été un des éléments d'interprétation majeur du monde et de la psyché tout au long du XXe siècle. Hein, on a lu le monde par le mythe. On a lu aussi la psyché par le mythe, notamment par les mythes Freud construisait autour des individus et de leurs propres rêves, de leurs histoires. Évidemment, le complexe d'Œdipe, c'est un emprunt littéral de cette mythologie appliquée à l'individu. Le monde de l'art a évidemment lui aussi reflété et traduit plastiquement cette nouvelle valeur de l'identité, fondée sur une représentation mi-réelle, mi-fictive de l'individu, et composant une mythologie individuelle faite d'archives, de récits fragmentaires, mais se rapportant à une personne unique. La notion de mythologie individuelle peut donc être vue sous plusieurs angles. Un angle esthétique, si on s'en tient aux œuvres par exemple de Christian Boltanski, d'un point de vue sociocritique, d'un point de vue historique. Donc on a eu constitué des mythologies individuelles dans une certaine période de temps, psychanalytique. Et ce qui me retiendra aujourd'hui, c'est la façon dont Barthes a spécifiquement traduit cette nouvelle forme de représentation de soi et l'a subvertie pour lui faire tenir aussi un discours social de la même manière que Christian Boltanski l'a fait en singeant ses souvenirs d'enfance et en dénonçant ainsi la facticité de ses scénographies stéréotypées de l'intimité et de l'histoire personnelle. Donc ici, vous avez par exemple l'album photographique de Christian Boltanski entre 1948 et 1952, qui a été publié en 1972, qui sont évidemment de fausses images d'un album qu'il présente comme authentique, mais qui est tout à fait faux. On voit des photographies assez anodines et indistinctes, et certains éléments trahissent en fait la facticité, puisqu'il écrit sur l'image 12 ma sœur montrant la ville de Saint-Malo. Je ne me souviens plus qui est le monsieur près d'elle. Je crois que c'est un ami de mes parents, mais Christian Boltanski n'a pas de sœur. Moi et ma sœur, devant le port de Saint-Malo, nous avions quitté Dinan pour faire une visite de la vieille ville. Donc, ces albums ont toutes les apparences d'un bel album photo qui rentrerait parfaitement dans le canon du stéréotype et qui acquérerait même un statut esthétique supérieur puisqu'il profite d'une belle mise en page et qu'il pourrait même passer pour un récit autobiographique. Alors, voici par exemple certaines des œuvres qui étaient présentées à la Documenta 5 de Cassel. Vous avez Joseph Beuys, qui était lui aussi l'auteur d'une mythologie personnelle, qui a été un des moteurs de ses productions plastiques. Il raconte en effet que... alors, Joseph Beuys, c'est un artiste de la scène allemande des années 50-60, du groupe notamment Fluxus, enfin associé au groupe Fluxus. Il a fait des performances, mais il avait aussi un matériau de prédilection qui était le feutre. Parce qu'il et la Grèce, parce que quand il était dans l'armée allemande, il s'est écrasé dans le Caucase et a été recueilli par des nomades qui l'ont, pour le sauver, enveloppé dans de la graisse et du feutre. Ce qui fait que ce matériau revient régulièrement et on trouve l'écho des demeures aussi d'Étienne Martin et de cette mythologie individuelle qui est fondatrice à la fois d'un acte esthétique mais aussi d'un acte identitaire. Ici, vous avez une œuvre de Rebecca Horn qui est en train de faire une performance avec un... Alors, c'est lié à l'autre exposition puisqu'elle a une unicorn head, une grande corne sur la tête. Et aussi, là, par exemple, vous voyez le bâtiment principal de la Documenta de Kassel, le Frederikanum Museum, où il y avait une structure en forme de bulle dans laquelle on pouvait entrer. Donc, vous voyez un petit peu la diversité des choses qui étaient présentées. Il y a aussi un documentaire de Jeff Geis qui est paru il y a un an aux presses du REL, un CD. Si ça vous intéresse, vous pourrez visiter la Documenta telle qu'elle était en 72. Alors, quelles furent les relations de Roland Barthes avec ces images, ces mythologies qui sont à mi-chemin entre images collectives et images personnelles, images stéréotypées et images intimes. Dans quelle mesure est-ce que Roland Barthes n'a pas aussi participé d'une certaine manière à cette constitution des mythologies, non pas seulement collectives, mais aussi personnelles? Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la construction barthésienne d'un discours critique ancré dans les images. Barthes a toujours parlé des images. Barthes n'a parlé peut-être que des images. En tout cas, le début de sa carrière de penseur, de sociologue d'abord, de chercheur, est chevillé aux images. Chevillé aussi au sens où, entre l'image et le discours, s'articule une façon de penser à partir de fonctions qu'il décrit dans ses textes structuralistes des années 60, notamment le fameux, un de ses plus fameux textes, Le message photographique, dont vous avez peut-être entendu parler, 1961, paru dans la revue Communication. Alors Communication, c'était une revue de sciences de la communication, hein, pas de littérature ni d'histoire de l'art. Donc ça situe aussi le discours de Barthes dans un entre-deux, dans une discipline naissante. De ce texte, il tire la distinction séminale entre le sens connoté, le sens propre, et le sens dénoté, l'interprétation, et aussi l'action du texte sur l'image. Chaque image subit les effets, donc a un message propre, mais elle subit aussi les effets du texte. Notamment, le texte, pour lui, premièrement, parasite l'image et oriente le sens dénoté vers une direction, c'est-à-dire que même si on comprend que l'image dénote de quelque chose, comme par exemple, je ne sais pas, ces centrales nucléaires là-bas, si on rajoute un texte, on va encore orienter d'un cran ces images vers un autre sens. Ensuite, la position même, alors ça c'est un facteur intéressant, parce que c'est un facteur en fait directement esthétique, de dispositif, la position même du texte de légende entraîne un continuum variable entre la connotation et la dénotation. C'est-à-dire que la petite légende qui est juste à côté de l'image vous paraît plus proche de l'image que s'il y avait un texte d'entrée qui présentait l'exposition. Donc la fonction d'ancrage est plus forte quand le texte est juste et est vraiment spatialement juste à côté que quand il est éloigné. Dans le journal, ça se voit tout de suite, vous avez le grand titre qui présente les faits, Valérie Trierweiler va très mal, et vous la voyez ensuite avec des légendes plus petites. Ici, on saisit toute la portée. Alors, on ancre tout de suite l'image à la légende. Donc, pour lui, c'est important parce qu'il y a un continuum, il y a une élasticité entre l'interprétation de l'image et le texte, même en fonction de la spatialisation. Dernier point, la légende est considérée comme moins dénotative et plus authentique. Aussi, donc, oui, c'est ce que je voulais dire, la légende, au plus c'est près de l'image, au plus c'est authentique. Au plus c'est éloigné, au plus c'est fictionnel. Troisièmement, le texte peut construire un signifié totalement nouveau qui recrée entièrement l'image ou en dépossède totalement la connotation originale. Donc là, je peux vous dire, ah voilà, vous voyez ce magnifique paysage des côtes du Rhône. Ça n'oriente évidemment pas du tout la réception, ou bien si c'était une publicité pour EDF, enfin bref, tout ça c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais Barthes les pose dès 1961. Ça veut dire aussi qu'il en a parfaitement conscience quand lui-même va se mettre à fabriquer ses récits illustrés. Je voulais juste que vous l'ayez à la tête. Alors, cette photographie est très connue. Elle a aussi été commentée par Barthes dans son autre texte important sur la photographie, Rhétorique de l'image. Et là, il utilise une publicité, donc ce que j'appellerais une image collective, une image publique. Il en retire certains traits distinctifs, donc l'italianité, donc cette identité construite à partir de petits éléments comme évidemment le blanc, rouge et vert, la tomate, les spaghettis, etc. Et aussi des sens dénotés qui sont l'authenticité, avec ce filet pour faire le marché, et la modernité, car il y a quand même une boîte de conserve et du parmesan sous plastique. Donc la connotation, qui dans le schéma de communication procède de la rencontre entre une intention d'auteur, les publicitaires, on pense à quelque chose, vous avez aussi évidemment le récepteur, ce lecteur, qui va décrypter des signes iconiques et graphiques, et nous-mêmes, au XXIe siècle, sommes des spécialistes de ce décryptage que nous faisons en permanence dans la publicité, même si on voit bien les ficelles des publicitaires. On fait fi et puis on continue quand même à acheter des iPhones. Donc, c'est pour cela aussi que Barthes va, dans les années 50 et 60, analyser d'abord ces dispositifs signifiants. Il passe à peu près 20 ans à les analyser, jusqu'à ce que, sans les manipuler lui-même, sans en faire lui-même de pratique. Alors, à part pour la Tour Eiffel, où il va effectivement faire un texte pour des images. Mais en fait, c'est à partir des années 1970, au moment où les mythologies individuelles apparaissent dans le champ de l'art, que Barthes va passer de l'autre côté, en fait, de la barrière, et ne plus seulement traiter ces images de façon théorique, mais aussi avoir une pratique de la photographie. Ce passage de la théorie à la pratique est caractéristique en fait d'une méthode de Barthes face aux images qui fut, comme lui-même, totalement hétérodoxe. Pourquoi ? Parce que Barthes est lui-même un personnage hétérodoxe, marginal. S'il fait une analyse communicationnelle du message photographique, s'il a écrit sur l'art, il n'est ni historien ni théoricien de l'iconographie, il n'est pas historien de l'art. Alors, juste un bref rappel biographique. Il était initialement professeur répétiteur. En raison de tuberculose, il n'a pas, de tuberculose récidivante, il n'a pas pu passer les concours, il n'a pas pu faire normal sup. Et donc, avant de partir 2 ans comme lecteur en Égypte et en Roumanie, il devient chercheur en lexicologie, donc analyse en linguistique, puis en sociologie au CNRS. Il obtient son poste fixe à 40 ans, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Et celui qui ne fut donc ni normalien, ni agrégé, et même jamais docteur, puisqu'il n'a jamais soutenu de thèse, eh bien, il entrera malgré tout au Collège de France sur la proposition de Michel Foucault, et il va participer à la fondation de nouvelles sciences humaines, sciences de l'information et de la communication, sémiologie des médias, mais aussi ultérieurement des études visuelles. Donc je vous souhaite d'avoir cette réussite aussi, sans aller par les grandes institutions. On peut même aller jusqu'à dire qu'il a configuré les études littéraires modernes, puisqu'il a introduit le structuralisme de Lévi-Strauss dans l'analyse littéraire, mais aussi la linguistique, le formalisme russe. Roland Barthes a en ce sens le profil des penseurs des Lumières. À la manière de l'essayiste Montaigne ou de l'encyclopédiste Diderot, il a toujours été ouvert au monde qui l'entourait, les images en faisaient partie. Ces images de Barthes sont donc elles-mêmes hétérodoxes, elles appartiennent à des corpus éclatés qui ne prennent de sens qu'à partir de qu'en fonction de sa propre figure, de sa propre subjectivité. Ce qu'il appelait dans la chambre claire sa mathésis singularis, c'est-à-dire une façon de voir le monde par l'être singulier. Il l'a revendiqué comme une méthode dans son humble note sur la photographie, et c'est en effet le sous-titre de l'ouvrage, qui ne se présente en aucun cas, la chambre claire, comme une histoire de la photographie, mais bien comme une tentative, un essai de comprendre ce qu'est la photographie. C'est une opération, on le comprend malgré des années de distance, qui sont extrêmement proches de celles qui avaient présidé à la rédaction de Mythologie. Alors Barthes est donc un personnage à replacer dans son système d'images, son système, son panorama culturel et visuel. Il a toujours eu conscience aussi de la portée politique de sa posture critique, même s'il ne la revendiquait pas avec un engagement aussi spectaculaire qu'ont pu le faire Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault. En fait, Barthes, à ce titre, est beaucoup plus proche des mouvements féministes, paradoxalement, qui considéraient que le privé était politique et que si on touchait à l'intime, on touchait au politique. Et Barthes, en affirmant, en quelque sorte, une représentation de sa subjectivité, de l'intimité, avait bien sûr une vision politique de la représentation. Il ne savait que trop bien que la représentation de l'individu avait une portée politique. Alors, dans La Chambre claire, on le verra, c'est à la fois l'affirmation d'une subjectivité assumée, mais aussi la mise en scène d'une nouvelle grande famille des hommes qui donnera à d'autres personnalités de la place qu'elles n'avaient pas, de la place dans une contre-histoire culturelle de la photographie. Alors c'est ce goût de Barthes pour l'anecdote, évidemment, que l'on retrouve. Et surtout, dans Mythologie, ce qui motive cette contre-histoire, c'est ce qui doit normalement sauver la mythologie en la déconstruisant de leur idéologie petite bourgeoise. Alors, c'est la norme avec un grand N, je cite, qu'il combat, c'est son ennemi capital, c'est la norme bourgeoise. J'ai envie de dire, c'est même la norme tout court. Donc, si Barthes n'a pas été normalien, si Barthes n'a pas été docteur, il n'a pas non plus eu de vie normative, hein, il a vécu avec sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Il était homosexuel, mais n'en a pas fait état. En tout cas, il a vécu de cette manière dans les années 60 et 70, à une époque où ce n'était pas non plus forcément quelque chose d'évident pour ces populations qui étaient quand même persécutées. Et il visait aussi à recouvrir, à travers l'individu, la création de l'individu, une autonomie historique, au risque aussi que la mythologie individuelle ne devienne une fantasmagorie, une fiction. Alors, d'abord, il s'agit de déconstruire la mythologie et le système mythographique. Alors voici quelques images qui ont inspiré Mythologie. Et je vous invite à aller voir l'édition illustrée qui est parue en 2010 par Jacqueline Guittard, qui est chercheuse et qui a retrouvé toutes les images qui avaient inspiré ces mythologies, qui nous les replace aussi dans un contexte. Alors vous avez la déesse. Là, vous avez un petit garçon tout blond en Afrique, c'est Bichon chez les Nègres. Vous avez Pierre Mendès France qui boit du vin et du lait, la mythologie du vin et le lait. Le cerveau d'Einstein, le vrai. Oui, oui, c'est des images authentiques. Voilà, décortiquées. Et la tête de l'abbé Pierre, qui est avec Charlie Chaplin. Il y a deux mythologies. Il y a une mythologie iconographie de l'abbé Pierre et une autre qui s'appelle Le pauvre et le prolétaire, qui traite de Charlot. Alors, ces images, évidemment, sont doubles, mais surtout, Barthes, dans son avant-propos, dit quelque chose qui est assez révélateur du statut de ces images. Alors, en fait, les mythologies n'ont pas été publiées en un volume tout de suite. C'était des chroniques écrites de 1954 à 1956, publiées dans les Lettres Nouvelles. Et Barthes explique que le matériel de sa réflexion, je cite l'introduction, est, en raison du rythme de l'écriture et du support de publication, donc un journal, très varié, en prise avec l'actualité. Et il prend soin de préciser qu'il s'agit évidemment de son actualité. Donc que dit-il avoir recherché dans cette réflexion régulière sur les mythes de la vie quotidienne française ? Il explique qu'il a cherché dans tout ceci des significations. Et plus précisément, il a demandé « est-ce que ce sont mes significations ?» C'est-à-dire que mythologies sont évidemment inextricablement liées à la personne de Barthes, même au regard que Barthes portait sur son quotidien. Il dit, en insistant encore sur les « mais », y a-t-il une mythologie du mythologue ? Sans doute, concède-t-il. Il admet donc que son observation du monde dans lequel il vit est aussi le lieu d'un paradoxe. Il fait partie d'un tableau, celle des mythologies modernes, et en même temps, il l'analyse. Donc il est à la fois juge et partie de son propre monde. Alors, débutant son livre par une mythologie frappante, Le monde où l'on catch, la suite de chroniques forme en 1957 un ensemble qui critique dans la continuité de la critique marxiste, des travaux d'Henri Lefebvre, critique de la vie quotidienne, 1947, et anticipe aussi les textes du situationniste Guy Debord, l'international situationniste paraît de 58 à 69, donc un an après mythologie, on a l'international situationniste, et puis la société du spectacle, évidemment, en 67. Une société donc médiatique, spectaculaire marchande, dont la fonction est d'édifier idéologiquement un discours dominant issu de la néo-bourgeoisie qui a triomphé au XIXe siècle. Il va aussi fustiger le poujadisme, voire poujade et les intellectuels, mais aussi les attributs de l'identité nationale que sont le vin ou le lait ou le beefsteak et les frites. Pourtant c'est important, c'est vrai. Il critique aussi la glorification et la mystification de la présence européenne coloniale. Donc là avec Bichon chez les Nègres, et surtout avec cette fameuse couverture de Paris Match, qu'il commente en postface dans laquelle qu'il décrit dans le mythe aujourd'hui, et il se met en scène. « Je suis chez le coiffeur, on me tend un numéro de Paris Match. Sur la couverture, un jeune nègre, vêtu d'un uniforme français, fait le salut militaire, les yeux levés, fixé sans doute sur un pli du drapeau tricolore. C'est le sens de l'image. Mais naïf ou pas, je vois bien ce qu'elle me signifie, que la France est un grand empire, que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent fidèlement sous son drapeau, et qu'il n'est de meilleure réponse aux détracteurs d'un colonialisme prétendu que le zèle de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs. » Je vous ferai remarquer le passage du nègre au noir, qui est aussi un discours qui change et qui évolue avec la prise de conscience de cette mythographie. Donc, quand on commence à comprendre la mythologie, même le discours change, et évidemment, le regard sur le monde avec et sur les individus. Alors, c'est une œuvre, c'est une couverture qui a été reprise, là, j'ai cité son nom, par un artiste qui s'appelle Vincent Mason, qui est un artiste contemporain qui travaille sur Roland Barthes, et notamment sur son rapport avec les colonies. Alors, donc, à travers ces exemples, on voit comment Barthes déconstruit les mythes modernes pour leur rendre leur caractère culturel, idéologique. Si Barthes ne l'évoque pas en 1957, même la notion de genre féminin-masculin sera abordée dans son ouvrage sur une nouvelle de Balzac, La Sarrasine, dans SZ, 1970, donc, qui est un texte en fait, qui est issu d'un cours qui paraît après mai 68 et qui est certainement aussi important sur la question du genre. Mais qui évidemment n'était pas, enfin, puisque vous savez, il y avait un slogan de mai 68 qui reprochait à Barthes de ne pas s'engager, on disait le structuralisme ne descend pas dans la rue. Mais en fait, le structuralisme effectivement ne descendait pas dans la rue, il allait, j'ai envie de dire, plus loin. C'est-à-dire que Barthes avait conscience qu'on pouvait aller plus loin que dans la rue. Alors, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. On retrouve dans SZ cette inversion des genres aussi dans le discours Charlus qu'il retrouve chez Proust. Et il traite de la réversibilité des codes sexuels et de leur apparence. Donc, l'intime est bien politique, évidemment. On le voit aujourd'hui, dans les manifestations, dans la rue. Évidemment, c'est lié. Ainsi, nombre de manifestations visuelles relayées par la presse ont pour Barthes une valeur mythologique. L'image, et plus précisément, l'image médiatique, image publique de masse, participe à une construction mythologique qui a une incidence sur la configuration imaginaire politique. Et si le mythe est une parole, donc c'est ce qu'il explique dans Le Mythe aujourd'hui, il est aussi autre chose qu'oralité, que récit. Il se déploie sous plusieurs formes, et il le dit nommément, des médiums polymorphes que Barthes liste avec en premier la photographie, puis le cinéma, le reportage, le sport, le cyclisme, le football, enfin, c'est moi qui rajoute, les spectacles, la publicité, et en avant-propos, il parle aussi des expositions qui ont été matière à sa réflexion, et notamment à propos de la mythologie Photoshop et de la grande famille des hommes sur laquelle je reviendrai. Mais comme Barthes tente à réduire les signes et à faire une synthèse, on comprend que même la notion de mythologie chez Barthes est extrêmement extensive, qu'elle a une force plastique très forte, mais qu'en même temps, elle est difficile à cerner, à définir concrètement. Elle renvoie évidemment à un imaginaire et en même temps à une pratique de masse. Une de ces pratiques de masse, qui est liée à l'intime, à la constitution d'une demeure, donc un lieu d'habitation réservé, va se figurer notamment dans l'album photographique qui va collecter les éléments de la mythologie familiale, du quotidien, mais aussi des menus faits de l'histoire supposée logique d'une vie, donc les anniversaires, les mariages, etc. Enfin, toutes les choses qui importent socialement. Alors, comment Barthes va déjouer cette trahison des images quand il va être question de se mettre en scène lui-même ? Comment ne pas tomber soi-même dans la mythologie ? Eh bien, il va le faire en 1975 dans son Roland Barthes par Roland Barthes et dans La Chambre claire. Et nous allons voir que, à cette époque, Barthes, en 1975, a bien conscience des enjeux qui entourent la possibilité de se représenter lui-même. Alors, en 1972, année donc de la Documenta, Denis Roche, qui est éditeur au Seuil, mais qui est aussi poète et photographe alors amateur, invite Roland Barthes à faire un numéro de la série Écrivain de toujours. Alors évidemment, Écrivain de toujours, vous me direz, c'est étrange parce que Barthes n'est pas un écrivain. Donc déjà, il l'invite à faire une autobiographie sur un profil qu'il n'est pas, enfin qui ne correspond pas. En fait, ce qui ressemble à une boutade de fin de repas prend un tour beaucoup plus sérieux pour Barthes, qui relève le défi. Donc, il va, en 72, il accepte la proposition, mais il faut savoir que cette série est toujours composée par une autre personne. Vous avez Yves Bonnefoy qui fait l'écrivain de toujours de Arthur Rimbaud ou Verlaine. Verlaine, je pense. Donc, c'est un tiers qui retrouve dans l'œuvre de l'auteur, tous les textes où l'auteur parle de lui. Et Barthes le sait bien puisqu'il a fait Michelet en 1954. Il a fait le Michelet par lui-même. Mais là, il doit faire le lui-même par lui-même, le Roland Barthes par Roland Barthes. Alors, il doit à la fois occuper le poste de biographe et d'écrivain, passer sous la brosse du portraitiste, comme dans un autoportrait au miroir, et il va se mettre en scène, construisant sa propre biographie, autobiographie distanciée, métacritique, comme un autobiographe analyserait à chaque instant son exposition publique. Donc, comme s'il commentait en permanence, donc je fais ça, je vous montre aussi, il devient sémiologue de sa propre représentation. Et il prend alors cette posture qui l'a aussi intéressé depuis le début de sa carrière, celle de l'acteur brechtien. Roland Barthes a beaucoup écrit sur le théâtre populaire dans les années 50, et notamment sur Brecht, tout particulièrement. Vous savez que le gestus brechtien de l'acteur, c'est le fait de se voir en train de jouer, en tout cas c'est d'avoir conscience qu'on est en train de jouer, et toujours garder, maintenir un écart entre soi-même et son rôle. Alors prenant cette posture, il se met en scène en ayant conscience de la mise en scène et du risque mythographique, du risque mythologique. Donc qui serait non pas une posture d'écrivain de toujours, mais pour toujours. Alors là, c'est pas très joli. Donc afin d'éviter l'écueil de l'auto-édification qui basculerait dans le ridicule et paraîtrait comme une caricature d'une physionomie de l'écrivain critique, notamment l'allusion est claire, disons que Barthes s'est disséqué, c'est la dernière image du Roland Barthes par Roland Barthes. Il met une planche d'anatomie des veines de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc il sait très bien, il a tout à fait conscience du geste qu'il a fait. Et il décide donc de penser son système de représentation dans la continuité de ses recherches, notamment à travers un thème qui est celui de son séminaire à l'EPHE, École pratique des hautes études, sous couvert d'études du lexique de l'auteur entre 1973 et 1974, cours qui est paru aux éditions du Seuil, couverture noire, typographie bleue. C'est le séminaire principal qui se double d'un autre séminaire d'études pendant lequel, donc vous savez, il y a les cours magistraux et puis les TD, donc pendant les TD, en quelque sorte, il va constituer avec ses étudiants une sorte d'auto-dictionnaire Barthes qui va prendre rapidement la forme que l'on sait. Le Roland Barthes par Roland Barthes suit en effet un ordre crypto-alphabétique. C'est-à-dire qu'il y a des fragments alphabétiques, mais le titre ne correspond pas forcément à l'ordre. Par exemple, après la baladeuse, on a « quand je jouais au bar ». Ensuite, il y a « nom propre ». On se demande pourquoi « nom propre ». Eh bien, parce qu'il parle de Bayonne. Puis, on a « de la bêtise, je n'ai droit », etc. Donc, c'est une manière de déjouer le fil déterministe d'un ordre établi. Il déplace, décale les objets, leur donne des apparences inattendues, afin de laisser son autoportrait des pièces en arrière-plan, imitant aussi la technique du bas-relief, c'est-à-dire qui fait surgir au premier plan des éléments figuratifs pour leur donner des aspects plus réalistes, tandis qu'à l'arrière-plan, on a des filigranes. Vous irez au musée à côté, puis vous voyez, il y a deux plans. Et évidemment, la phrase d'ouverture, qui est derrière la couverture, en négatif, noir sur blanc, écrit de la main de Barthes, tout ceci doit être considéré, comme dit par un personnage de roman. Donc en ouverture, c'est la posture fictionnelle qui est choisie pour déjouer donc par la fiction la possibilité d'une mythologie sclérosante qui figerait Barthes, qui le fixerait comme dans de la gélatine. Alors ces renversements et ces écarts sont caractéristiques de sa méthode qu'il applique à ses propres images au risque parfois du malentendu. Celle de croire que Barthes, par exemple, se livre de façon égocentrique, qu'il parle de lui. On le lui a reproché dans les années 70, il y a eu un pamphlet qui s'appelait « Le Roland Barthes sans peine », qui était un manuel pour parler Barthes, et la leçon 14, je crois, était la pratique du « ramener à soi ». Donc, toujours dire « je », toujours ramener à soi. Donc, c'est évidemment une critique narcissique, égocentrique. Barthes préfère le terme d'égotisme, associé à Stendhal, toujours voilé par une part de délicatesse fictionnelle. Et le pseudonyme apparaît aussi comme un de ses multiples masques. Barthes appelle d'ailleurs son livre le RB. Il le nomme ainsi. L'objet a le nom de ses initiales, mais c'est aussi une façon de le distancier de lui-même. Donc ces masques fuyants de Barthes font partie de sa stratégie critique vis-à-vis de ses propres images. Et dans son dernier ouvrage, La Chambre claire, la critique actuelle, et même la plus bienveillante par ailleurs, que ce soit Antoine Compagnon, Marielle Massé ou Alexandre Geffen, ont cru lire un texte autobiographique, ce qui est certes vrai, romanesque, ce qui est certes vrai, mais ils n'ont pas vu les images, ils n'ont pas regardé les images. Ils n'ont pas vu que les images que Barthes présentait déconstruisait totalement la mythologie photographique individuelle pour recréer un autre récit, un autre album, celui d'une autre famille visuelle. Alors là, des photos de Barthes sur la plage, mais ça j'en parlerai à Cerisy en juin. Oui, l'écrivain Barthes à la plage, c'est un motif très important parce que la plage, c'est la page blanche. Hein, c'est la page blanche du XXe siècle. C'est là où le XXe siècle a travaillé 11 mois de l'année pour aller à la plage. Donc c'est quand même un facteur important. Soit la plage, soit la montagne. Donc les deux espaces nus, les plus nus qu'on avait sur Terre. On ne faisait rien d'ailleurs, mais bon. Donc, que fait Barthes dans la chambre claire? Eh bien, il part sur la fondation d'une autre famille, d'un album qui ne serait pas un album personnel. Et le début, évidemment, commence comme un conte. Un jour, il y a bien longtemps, je tombais sur une photographie du dernier frère de Napoléon, Jérôme. Photographie qui n'est pas montrée. Pourquoi? Parce qu'elle existe, hein. Barthes a consulté une histoire de la photographie. Elle n'est pas montrée, pas plus que la photographie du jardin d'hiver, c'est-à-dire la photographie de sa mère, qui a beaucoup fait gloser. Parce que, comme il ne la montre pas, évidemment, on s'est beaucoup intéressé à cette photo. Il explique « Je ne puis montrer la photo du jardin d'hiver, donc celle de sa maman, enfant, où il la reconnaît. Elle n'existe que pour moi. Pour vous, elle ne serait rien d'autre qu'une photo indifférente, pardon, j'ai fait une coquille, l'une des mille manifestations du quelconque. » Donc c'est clair, il le dit, ça ne nous évoquera rien. On va tomber dans le stéréotype, dans la banalité d'un album de photos. Et ce n'est pas du tout ce que souhaite Barthes. Voilà en fait les images que l'on peut voir dans la chambre claire. Ah oui, je vous ai pas montré la. Oui, je vais quand même. Une des mythologies de 1957, c'est la mythologie La Grande Famille des Hommes, qui est une mythologie qui concerne une exposition montée par Edward Steichen, alors directeur du MoMA, et qui a contribué à faire entrer la photographie au MoMA, donc c'est un personnage très important pour l'histoire de la photographie, et il a fait The Family of Man, The Greatest Photographic Exhibition of All Times. Donc, on montre le monde. Et la grande famille des hommes. Barthes est extrêmement sévère envers cette mythologie de la grande famille, de l'humanité fraternelle, qui passe alors par des stéréotypes. Là, alors avant, donc premier chapitre, l'amour, donc on voit des couples en train de s'embrasser, hétérosexuels évidemment, puis la naissance, la maternité dans toute sa splendeur, l'accouchement, c'est magnifique, toute personne qui a accouché ou qui a vu un accouchement sait que c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment une fictionnalisation de l'humanité qui certes est parfaitement positive, humaniste, mais qui est totalement fictionnelle pour Barthes, hein, en tout cas qui la critique très vertement. Alors là vous avez l'entrée au MoMA, le catalogue. Ah oui, parce qu'après les enfants, il y a les enfants, puis les enfants jouent, après on travaille, après l'enfant c'est le travail, après le travail je crois que c'est tout de suite la mort ou quelque chose comme ça. Et après, la dernière image, regardez, c'est magnifique, c'est les enfants qui s'en vont. Donc, bon, aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire, l'exposition est toujours visible, mais évidemment, ça conditionne une conception du monde et de la famille et de la suite d'une vie et de tout ce que doit être la logique de votre vie, de notre vie. C'est l'idéologie bourgeoise. Voilà. Alors, Barthes, lui, va choisir de prendre un autre corpus. J'ai pris des exemples ici. Il prend un corpus qui est très différent. Et pour la chambre claire, donc le récit, c'est évidemment une enquête. Hein. Il s'agit de retrouver l'essence de la photographie. C'est la première partie du livre. Il dit, bon, en fait, d'abord, c'est une commande. On lui a demandé de faire un commentaire d'une série sur les urgences de François Lair. Mais il dit qu'il n'arrive pas à écrire dessus. Et donc, il cherche... dans la première partie de son ouvrage, vraiment, en bon structuraliste, à trouver l'essence de la photographie. Et il s'applique à le faire pendant toute la partie qui est d'ailleurs rédigée à Paris. Toute la première partie où il est toujours dans sa posture de professeur au Collège de France et dont on attend une parole un petit peu comme ça, qui vient d'en haut. En fait, cette quête est très vite aporétique, impossible. Et l'issue se trouve être l'image de la mère, image personnelle, intime, mais qui ne peut pas être montrée et partagée. Donc, je vous laisse le soin de lire ce récit, d'y découvrir l'image d'un chercheur qui trouve autre chose que ce qu'il cherchait et décide de ne pas le montrer, ce qui nous arrive tous les jours, n'est-ce pas ? Hein, on cherche des choses, et puis finalement, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on le montre ou pas ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ce geste de renoncement s'accompagne en fait d'un autre geste. C'est le geste d'une exposition. Alors, pourquoi mettre des images dans la chambre claire, d'ailleurs, alors que ce texte était une commande sur des photographies d'un photojournaliste? Il aurait pu très bien ne pas mettre d'images dans son livre sur la photographie, faire une note, un essai, comme Wilhelm Flusser l'a fait, ou Suzanne Sontag. Il n'y a pas d'images dans le livre de Suzanne Sontag. Donc, il était tout à fait possible de le faire. Non, il le fait, il fait un geste d'exposition. Ce geste d'exposition va se faire d'abord en partie à Paris, puis à Urth, sur les lieux de son enfance, de ses vacances régulières avec sa mère. Le livre est d'abord écrit dans le tumulte mondain de Paris, donc on a ce Barthes professeur, et après, on a à Urth la subjectivité qui revient, la demeure aussi, la mythologie de la demeure qui revient, et la mythologie individuelle travaille cette seconde partie du texte qui s'ouvre sur une palinodie, ode dans laquelle on reprend son texte pour dire tout le contraire de ce qu'on a dit. Et Barthes, donc, dans cet environnement familial, cette demeure mythique, prend soin, comme dans son RB, de montrer une photo de lui, prend soin de montrer une autre famille. Alors, il avait déjà fait ça dans le Roland Barthes par Roland Barthes, il y avait une photographie de lui avec sa mère et son frère sur la plage, qui était légendée « La famille sans le familialisme ». C'est-à-dire que c'est sa famille de cœur, c'est pas la famille normative. Le familialisme avait été aussi critiqué par Deleuze et Guattari. Et donc, c'est cette autre famille qu'il montre, et cette autre famille, donc je vais vous la montrer, c'est tous les gens qu'il découvre dans les magazines dans lesquels il décide de trouver les images du monde qui l'entoure. Celui-là, qui est le magazine photo avec en couverture Caroline de Monaco traquée par les paparazzi, qui va être en fait une des sources principales des images de la chambre claire. Pas du tout des images qui sont des archives personnelles. L'autre, c'est celui-là. C'est un spécial photo du Nouvel Observateur qui est un petit peu étrange et qu'on est obligé de conserver plié, et dans lequel il va trouver en fait un texte. Alors le sujet est écriture et photographie. C'est un numéro qui date de 77 ou 78. 77, donc il l'a déjà chez lui depuis un moment. Surtout, il va y trouver un texte qui s'appelle Les analphabètes de l'avenir de Walter Benjamin. Walter Benjamin qu'il ne cite jamais. Par contre, toute l'iconographie, il le cite une seule fois en disant qu'il a bien vu l'avenir, mais il ne le mentionne pas plus. Alors que toutes les illustrations qu'il va prendre sont celles qui illustrent ce texte des analphabètes de l'avenir. Là, vous avez les Russes, un 1er mai. Le condamné à mort, Lewis Payne, le beau Lewis Payne, qui a comploté contre accusé d'avoir comploté contre Lincoln, et qui évidemment est un personnage ambigu qui apparaît dans la chambre claire. C'est un meurtrier, en tout cas, mais il est beau, donc il est désirable aussi. Hein, il porte en lui une ambiguïté avec en face la reine Victoria, qui est qualifiée d'entirely anesthetic, donc qui est évidemment le canon, comme on le l'aborde, en fait, comme Barthes le refuse. On a Savorgnan de Brazza, l'esclave, les enfants, les freaks, les enfants attardés, Et tous ces personnages vont avec aussi le cheval, les nonnes à l'arrière-plan. Donc là, ça c'est dans la première partie, c'est sur le punctum. Tous ces personnages vont en fait, les enfants dans la rue, constituer cette nouvelle famille que Barthes présente. Avec des enfants, des animaux, des marginaux, des homosexuels, des condamnés à mort, tous les gens qui n'ont pas d'histoire en fait. Tous les gens qui n'ont pas de visibilité. Et en montrant ces images, il crée une nouvelle mythologie, évidemment, qui est celle d'une chambre claire dans laquelle on voit le monde différemment, mais évidemment, c'est sa famille à lui. Alors, chez Barthes, bien sûr, on voit bien le contre-pied, là, de la grande famille des hommes. Il n'y a pas de travail, si ce n'est le travail acharné du cheval de la photo de Stieglitz en ouverture. Et qui d'ailleurs rend le philosophe fou parce qu'il il en perd la tête. Et on a toute cette galerie de portraits qui va ouvrir en fait l'intime à un monde social, un autre monde qui n'est pas habituellement visible. Et je regrette qu'on ait mis autant de temps à ne pas voir ces images et à s'attarder aussi longtemps sur cette mythologie de la mère absente avec des relents psychanalytiques un petit peu forcés quand même, qu'on a vraiment décortiqué, alors que précisément Barthes ne voulait pas nous la montrer, mais il nous a montré d'autres choses que nous n'avons pas voulu voir. En tout cas, on ne voulait pas les voir de cette manière-là. Donc c'est à cet endroit-là que les mythologies collectives et les mythologies personnelles prennent un tour plus politique. Et pour conclure, je voudrais dire que la composition des ouvrages chez Barthes a souvent une fonction très précise dans l'expérience de lecture. Et la tendance de la critique a souvent été de minimiser les images au profit du texte. C'est-à-dire qu'on faisait passer d'abord le récit, la narration, contre les images. Mais en regardant les sources de la chambre claire et en observant la recomposition que Barthes effectue dans son ouvrage, on constate que le dispositif était bel et bien pensé en vue d'une double réception, narrative et visuelle. Les images de la chambre claire tiennent un discours, puisqu'elle ne raconte une histoire. Elle porte plus loin la note de Barthes, au-delà de l'affirmation d'une subjectivité, ce qui, je le répète, est exact aussi. C'est pas faux, évidemment, c'est aussi un roman, c'est aussi une autobiographie, mais c'est encore autre chose. Cette conception romanesque de l'écriture est là. Mais la force subversive des images de Barthes traverse ses écrits, depuis Brecht, en passant par Mythologie, et sa trilogie illustrée, L'Empire des Signes, Roland Barthes par Roland Barthes et La Chambre claire. Il a en effet, d'une part, analysé les représentations collectives et les constructions mythographiques qu'ils accompagnaient pour montrer comment elles avaient le pouvoir d'articuler la société, mais aussi de renforcer le pouvoir de la norme et de la norme intime, de la norme individuelle. Plus tard, il a œuvré à la déconstruction de sa propre image, à la fois pour échapper à sa mythographie et entrer par le jeu des renversements et des masques, et tenter par des jeux de renversements et de masques, de permettre à sa mythologie individuelle de rester mobile, vivante, le plus loin possible de la force sclérosante du mythe et le plus proche possible de l'individu, de sa vérité intime et de sa force plastique qui est toujours mouvante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci infiniment.
Tu veux l'autre ?
C'est bon. Ça y est, voilà. Merci. Merci beaucoup, Magali, parce qu'effectivement, tu as montré à quel point et précisément comment les images ne sont pas simplement un objet d'étude pour Roland Barthes, mais une force de mobilisation de la lecture qui effectivement il a et tu le disais dès les années 60, le début des années 60, il le montrait déjà que les photographies sont, enfin que les images sont lues autant que le texte, et restait peut-être à apprendre à les lire. Mais c'est vrai que dans cette deuxième partie, si on parle du fameux dernier Barthes avec les 47 000 guillemets qui doivent entourer cette expression, c'est surtout la portée subversive des images qu'il utilise. Et c'est peut-être dans cette si je peux poser une première question avant de passer le micro, c'est peut-être cette articulation dont j'aimerais bien que tu parles, la manière dont il a commencé par lire pour ensuite, tu l'as dit un peu, passer de la théorie à la pratique. Effectivement, est-ce que tu peux revenir sur je ne sais pas, sur des exemples précis ou sur cette méthode, justement.
Alors, c'est... Bon, en fait, je crois qu'après mai 68, il a quand même... Il y a quelque chose qui a changé en lui. Il a considéré qu'on ne pouvait plus faire tenir un discours comme on le tenait auparavant dans l'institution. Et qu'il fallait faire peut-être quelque chose. Alors, il est parti au Japon. Et le dépaysement a toujours été bénéfique à Barthes. Vraiment, c'est toujours loin qu'il a eu des espèces de pulsions créatives. Et notamment, une très importante, c'est La mort de l'auteur, qui a été publiée initialement, je le dis tout le temps, mais c'est très important. La mort de l'auteur n'a pas été publiée en français. D'abord, ça a été publié en anglais, en 1967, dans une revue d'art contemporain. Et plus précisément, dans un livre d'artistes contemporains. Et c'est des artistes minimalistes qui sont venus le chercher et lui ont demandé, lors d'un passage à New York, voilà, on a une certaine conception de l'artiste. Est-ce que vous n'auriez pas un texte pour nous ? Et Brian O'Doherty lui demande, et Barthes répond, oui, j'ai quelque chose pour vous. Et il donne La mort de l'auteur. Donc initialement, c'est bien dans un contexte de création artistique loin de Paris qu'il fait cette avancée. Le Japon aussi, c'est ce qu'il appelle ses mythologies heureuses. Et ça aussi, c'est important parce que les mythologies, pour lui, il appelle ça des tableaux teints, donc des espèces de tableaux vivants, en quelque sorte, de la société. Tableau, c'est une notion importante chez lui. Mais au Japon, les tableaux teints deviennent des mythologies heureuses. Elles sont loin de l'idéologie, d'une idéologie... En tout cas, elles sont débarrassées de l'idéologie bourgeoise qui le crispe tant en France. Et c'est donc quand il est dans cet environnement neutre, en fait, pour lui, le Japon, il ne sent plus le poids de l'idéologie, en tout cas, il n'est pas capable de l'interpréter. Donc, il se retrouve dans cet environnement et là, il compose lui-même des images. Il compose un livre, il compose une suite qui est très scénarisée, puisque si vous regardez l'Empire des Signes, la première image et la dernière image se répondent. C'est l'acteur japonais qu'il aime bien, qui a la première image, il a la bouche fermée, et la dernière image, il a la bouche entrouverte. Et donc, le temps du livre ne s'est passé qu'à un souffle. Il est passé comme ça tout seul. Mais c'est une mise en scène, et il faut vraiment le voir comme les débuts de la scénographie barthésienne, qui sont évidemment très liés aussi à son contact de Brecht. Et je crois qu'il y a une double inflexion, à la fois l'après 68, où on ne peut plus tenir un discours comme avant, et en même temps, cette défamiliarisation par l'étranger et par des contacts, je pense aussi, avec des formes esthétiques, des formes différentes de celles conservatrices qu'il a en France. Un autre milieu aussi. Tu fréquentes.
L'Empire des Signes, c'est sorti aux éditions Skira, qui est une édition...
Skira, à Genève.
Voilà, et c'est lui, comment tu connais l'histoire de cette édition ?
C'est encore une commande, alors je ne sais plus qui l'a passé. Mais en tout cas, c'était une série qui s'appelait Les Sentiers de la Création, et plusieurs écrivains prenaient en charge ces sentiers. Yves Bonnefoy a fait L'Arrière-Pays, Le Clésio High, et... Orion aveugle, Claude Simon. C'est très classique. Barthes choisit de faire un carnet de voyage. Et il faut savoir aussi qu'il est aidé par Nicolas Bouvier, qui est alors graphiste. C'est lui qui fait les mises en page chez Skira, à cette époque-là. Donc, il a un très bon iconographe qui l'aide, en fait, à composer ses ouvrages. Et il le fait sous la forme traditionnelle des fragments, des cahiers. Alors c'est aussi amusant parce que c'est une contre-mythologie de l'écrivain en vacances, puisqu'il fait son récit de voyage, c'est pas le Congo, c'est le Japon, et il ramène des impressions qu'il place sous le signe du Satori, donc qui est le zen japonais, une espèce de zébrure qui n'est pas motivée, c'est vraiment un flash qu'on a, c'est un flash photographique. Alors il adopte vraiment cette méthode qui devient une méthode esthétique aussi.
Merci.
Enfin, je pense.
Alors.
On a 10 minutes pour les questions. On ne sait pas quand la conférence est finie que vous pourrez les poser. Enfin, si, après, dans le couloir.
Non ? Vous n'avez pas un savoir sur Barthes et l'Afrique ? Ah oui, anecdote amusante. J'ai découvert en préparant la conférence que l'édition américaine de mythologie n'avait pas traduit toutes les mythologies et notamment avait toujours supprimé grammaire africaine.
Ce qui est cohérent.
Pas politiquement correct, à mon avis. Voilà. Et pour parler juste de Barthes avec l'Afrique, ça ne se lit pas dans son nom, mais la mère de Barthes, Henriette Binger, c'était la fille de Charles Binger, qui était un explorateur qui a traversé le Mali, qui a fondé une ville en Afrique qui s'appelle Bingerville, et surtout qui a donné la Côte d'Ivoire à la France. Le grand-père de Barthes, c'est celui grâce à qui on a eu en France le grenier de la Côte d'Ivoire. Alors, l'histoire de Barthes, elle est évidemment extrêmement intimement liée à l'Afrique, mais peut-être tellement intimement que quand on lit Barthes, on ne comprend pas en fait à quel point elle procède en fait d'une histoire personnelle. Il mentionne d'ailleurs ce grand-père dans La Chambre claire, dans le Roland Barthes par Roland Barthes. C'est celui qui ne tenait pas de discours. Et c'est la souche aussi. Il disait rien. Bon. Il y a encore des choses, je pense, à découvrir sur.
À propos de découverte, comme j'ai essayé de présenter rapidement, j'ai omis en me disant que je le dirai à la fin, mais du coup je vais t'interroger là-dessus, que tu organises, parce que l'année prochaine c'est le centenaire de Barthes. Barthes aurait eu 100 ans en 2015. Et tu organises donc une grande exposition à partir du FRAC à Bordeaux. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de cette exposition qui aura lieu quand?
Alors, donc c'est une exposition qui aura lieu en été. Et c'est dans le cadre du centenaire Barthes. Éric Marty m'a demandé de penser à un projet qui relierait Barthes au contemporain. Et il m'a semblé intéressant de le lier à l'art contemporain. Et notamment à la collection du FRAC Aquitaine, qui est une collection historiquement tournée vers la photographie. Et qui, hasard ou coïncidence, est en Aquitaine, région de naissance de Barthes. Barthes est né dans ce que j'appelle le triangle des Bermudes du marxisme, Urte-Barthes, les Landes, Henri Lefebvre, Bourdieu, les Pays de la Dour. Alors, j'aimerais bien savoir, enfin, ça c'est mon mystère, comment est-ce qu'une région aussi petite peut produire autant de penseurs marxistes, enfin, je ne comprends pas, qui ont eu autant de succès, bref. Bon, ça, j'en parlerai pas. Donc, l'idée, c'était de montrer Barthes, un autre Barthes, un Barthes contemporain, puis aussi un Barthes plus personnel, un Barthes plus biographique, plus ancré dans le territoire de l'Aquitaine, et donc forcément un Barthes à la plage, puisque... qui va en Aquitaine, va nécessairement à la plage. Un Barthes aussi en vacances, c'est l'écrivain en vacances. Mais Barthes en vacances a eu une activité prolifique, puisqu'il écrivait, il a écrit La Chambre claire, il a écrit d'autres textes, et surtout, comme tous les enseignants, il prépare ses cours pendant l'été, pour la rentrée de septembre. Et donc tous les cours, Comment vivre ensemble, Le neutre, la préparation du roman, ont été en fait faits à Urte, en Aquitaine. Donc c'est au moment de cette période de vacances qu'ont été produits les textes peut-être les plus marquants, en tout cas font partie des textes marquants, et puis évidemment le Roland Barthes par Roland Barthes, qui est cette scénographie. Alors Vincent Mécène est invité à faire une intervention sur ce Barthes post-colonial au FRAC, et il y aura plusieurs expositions, une au FRAC Aquitaine et une autre au Centre d'art d'Orthez Image Image, où il sera question aussi du contraste entre la lumière aveuglante de l'été et la chambre noire dans laquelle on a aussi à la fois notre imagination et nos fantasmes. Fantasmes parfois sexuels aussi, hein, parce que la sexualité de Barthes s'est développée, pas quand il avait 45 ans, mais à Bayonne, dans les années 50, au sanatorium aussi. Donc c'est un rapport aussi avec le corps qui induit en fait un renversement de la norme, puisque quand on est tubercule, enfin je sais pas si, quand on est tuberculeux homosexuel et qu'on rate ses études pendant la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, c'est pas évident à gérer, et surtout que sa mère est abandonnée, enfin il a perdu son père, sa mère a un frère avec, sa mère fait un enfant avec un homme marié, donc Bart doit prendre la responsabilité du foyer financièrement, donc il a des responsabilités extrêmement lourdes et en même temps une vie intime. Donc c'est un personnage fort, mais extrêmement simple et pudique, et je voulais aussi par cette exposition montrer qu'il y avait des côtés obscurs de Bart, en fait, des espaces, des lieux de contraste en fait très forts entre ce Bart en lumière et puis le Bart plus intime, plus pudique. En fait, on verra rien de spécial, mais juste mettre en avant d'autres choses. Et l'exposition s'appellera Lumière de Bart. Voilà. Aussi pour le ramener dans la tradition des Lumières aquitaines, puisque il a eu Montaigne, la Boétie, et puis, enfin, l'Aquitaine a produit de grands penseurs. Je suis pas du tout d'Aquitaine, hein. J'ai pas de rapport, j'ai pas d'action avec le Conseil général régional d'Aquitaine. Mais en tout cas, on espère que ce sera le moment de revoir un petit peu la contribution de Bart aussi à l'aune d'œuvres d'art de jeunes artistes.
On a très très envie d'y être.
Oui, j'espère que ce sera aussi bien que ça en a l'air, mais ça, on ne sait jamais. Il y a un texte qu'il a écrit qui s'appelle « Sur la plage ». Qui n'a jamais écouté les yeux fermés, les conversations des gens, ça commence comme ça, qui n'a jamais écouté les conversations des gens sur la plage. Et c'était aussi c'est un texte sur une pièce de son ami Severo Sarduy, qui était un écrivain cubain qui avait monté cette pièce, qui n'a pas du tout été comprise à sa sortie, qui a été réenregistrée et qui est passée sur France Culture récemment. Et c'est aussi l'autre facette de Bart, c'est le monde des années 70, gay, dans lequel qu'il a fréquenté, le Palace, Andy Warhol, la galerie Yvon Lambert. C'est des gens extrêmement créatifs. Il aimait Mapplethorpe, il aimait New York, et la fin de La Chambre Claire, ça se termine dans une boîte gay à New York. C'est le dernier tableau, c'est pas du tout la mer, c'est pas du tout la mort, enfin, non, il regarde des tableaux vivants dans une boîte de nuit. Enfin, c'est aussi l'autre face de la création aussi. Mais elle est un peu minorée, je sais pas pourquoi.
On va s'en occuper.
Merci. Je vous en prie. Avec
merci infiniment.
Merci à vous de votre attention, de votre écoute.